On ne voyait que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal.
Les détricoteuses.
Cauchemar d'Éric Zemmour.
Il était une fois une princesse.
Tricot radiophonique, tissé à 8 mains et 4 voix, qui parle des femmes avec un grand F ou un petit.
Je poursuivrai mon action avec persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
Il y a trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer.
Une émission bimenstruelle, le dimanche à 13h, sur JetFM 91.2.
Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà pour la troisième émission des détricoteuses sur JetFM 91.2. Une troisième émission spéciale. Et oui, on perd pas de temps, on propose déjà des émissions spéciales. Mais on garde toujours le même concept. Un mot, quatre personnes, quatre sujets sur les femmes avec un grand F ou un petit. 7 minutes max par sujet et une heure d'émission pour écouter et discuter avec toutes mes détricoteuses préférées. Laure, Marianne et Marjolaine, salut les filles.
Salut.
Alors bon, il n'y a pas Marjolaine qui s'est envolée pour la réunion, mais elle est quand même dans nos cœurs et,
oh oui,
et quand même dans l'émission. Et pour cette spéciale, on a demandé donc à d'autres détricoteuses de participer à cette émission. Car sachez que vous pouvez tous et toutes être des détricoteuses si vous le souhaitez. La thématique choisie pour cette spéciale est rouge. Et pour étudier sous toutes les coutures cette thématique, nous avons eu 4 volontaires. Joanne, salut Joanne.
Salut.
Alors tu es en fait déjà une habituée des détricoteuses puisqu'on t'entend dans mes 2 sujets des émissions précédentes.
Mais tout à fait, c'était ma voix.
Et oui, qui, je vous le rappelle, était sur la thématique tricot puis chaudron que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de JetFM. Nous avons également autour de la table Lucie. Salut Lucie.
Salut Julie.
Alors toi aussi, tu es une habituée des ondes et de JetFM puisque tu y animes une super émission de cinéma qui s'appelle Les Voyeuses, que je ne recommanderais jamais assez d'écouter. Salut Lucie.
Eh oui, salut, merci pour l'autopromo.
Et nous avons également 2 participantes loin, voire très loin de Nantes, Anna à Paris et Amandine au Chili. Et oui, ça détricote internationalement. Donc elles ne sont pas dans les studios, mais elles vous ont préparé des petits mots radiophoniques. Alors avant ça, revenons à la thématique. C'est donc rouge que nous avons choisi pour vous. Alors le rouge renvoie à beaucoup de choses. C'est une couleur évidemment, une teinte, un pigment. Saviez-vous que le noir et le rouge sont les premières couleurs qui ont été reproduites par l'homme et donc utilisées dans l'art? Saviez-vous aussi que les chats ne peuvent pas distinguer cette couleur?
Incroyable.
Et que dans l'Égypte ancienne, Seth le destructeur était le dieu rouge? Alors évidemment, on peut penser aussi au rouge comme couleur politique ou bien comme couleur de l'amour, de la passion ou bien même de la honte, de l'alerte ou de l'interdiction. Mais le rouge, c'est aussi ça.
Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence, hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit pot de vin.
Ouais.
Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Déjà, ça me désole, hein? Attention, tu vas n'importe où avec ta caméra.
Alors vous aurez peut-être reconnu le cultissime « C'est arrivé près de chez vous ». Bon, ce sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais moi c'est la première référence que j'ai quand je pense à rouge. Et donc oui, le rouge, c'est la couleur de la violence. Et c'est la violence du tabou qui persiste encore aujourd'hui. Celui du sang qui coule tous les 28 jours en moyenne pour la moitié de la population. Mais oui, c'est aussi le vin. Et faire du vin resterait-il le monopole des hommes? Tout cela, en tout cas, renvoie à la nature, au corps, à l'origine même du monde. Et c'est de tout cela dont il sera question dans cette émission. Et je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec ton sujet. Joanne, qu'est-ce que tu nous as concocté?
Alors moi, quand on m'a dit rouge, j'ai tout de suite pensé à menstruation, en bonne professeure de SVT que je suis. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de traiter d'autres aspects que biologie, anatomie, physiologie. Et je suis allée acheter des livres et me cultiver quelque peu.
Si on sert à ça, c'est déjà bien.
Eh bien écoute, oui. Et je suis tombée par hasard sur 2 livres de la même auteure, sans le vouloir, dont je parlerai peut-être un peu après. et qui m'ont permis de prendre conscience du tabou autour des règles, dont vraiment je n'avais pas conscience, je crois. Je crois que je suis très à l'aise avec mes règles, peut-être. Et du coup, voilà, j'ai eu envie d'aborder ce sujet. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire avant. Je ne veux pas dévoiler tout, si ce n'est que j'espère que vous apprécierez mon ton plutôt pédagogique, non sans humour.
Les règles, les coquelicots, les ours, les ragnagnas, les lunes, les anglais qui débarquent, les trucs, les machins.
Merci, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain règlement.
Vous venez vous faire avorter, vous aussi ? Moi, je me suis aperçu il y a quelques jours que je saignais pas de la moule. J'en ai déduit que j'étais en cloque. Ce médecin, il assure.
Madame Garrison ?
Oh, c'est moi, oui.
La paroi intérieure de l'utérus s'appelle l'endomètre. Cette muqueuse s'épaissit en début de cycle pour former ce qu'on appelle la dentelle utérine. C'est comme un nid douillet qui se prépare chaque mois pour accueillir une grossesse. Sauf que la plupart du temps, il n'y a pas de grossesse. Chaque femme n'a que quelques enfants dans une vie pour 450 à 500 cycles et donc autant d'ovulations. C'est alors qu'arrivent les règles. La dentelle utérine s'enflamme, se détache de l'utérus, qui se contracte pour l'évacuer par le vagin, emportant avec elle l'ovocyte qui a terminé sa partie. End of the game, telles sont les règles du jeu, et même les règles tout court.
Et alors là, il m'enlève sa sonde et il me dit « Mademoiselle, recalculez à partir du premier jour de votre cycle de vos dernières règles, la période d'ovulation étant à 14 jours avant vos prochaines règles, sur votre cycle normal, 28 jours a fortiori. »
Faut plus le voir, ce gynéco.
Bien que les règles ne soient ni sales ni dangereuses, on ne les montre pas, on n'en parle pas, et on se méfie même dans de nombreuses cultures des femmes pendant leurs règles. C'est ce qu'on appelle un tabou.
Sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier-Amélie, les deux femmes du jour sont indiennes.
Elles s'appellent Bindu et Kanaka Duraga. Et ce matin, à 3h45, elles ont brisé un interdit vieux de plusieurs siècles. Alors là, ce sont des images furtives diffusées par l'agence indienne ANI où l'on voit ces deux femmes se faufiler dans le temple de Sabarimala tôt ce matin, alors qu'il fait encore nuit, mais qu'une foule de pèlerins prie déjà sur le site dans l'état du Kerala, donc c'est au sud de l'Inde. Un site interdit aux femmes âgées de 10 à 50 ans en âge d'avoir leurs règles, elles sont considérées comme impures.
Mais un tabou, c'est une chose dont on ne doit pas parler, que l'on ne doit absolument pas faire pour des raisons de croyance, de religion ou de vie et de mort. Et un grand tabou commun à toute l'humanité, c'est le tabou de l'inceste, qui interdit aux membres d'une même famille d'avoir des relations sexuelles. Le tabou de l'inceste, par exemple, a permis aux humains d'évoluer et de se développer en se transmettant de génération en génération un patrimoine génétique varié. Le tabou des règles, lui, fait partie de la vie des humains depuis tellement longtemps qu'il est difficile de le faire disparaître. Les règles sont invisibles, associées à la honte et à la saleté. Les scientifiques qui étudient les sociétés humaines, les anthropologues, nous disent que le tabou des règles est présent partout dans le monde. Pourquoi nos ancêtres ont-ils fait des règles et du sang menstruel un tabou partout sur la Terre ? On ne le sait pas bien. Voici tout de même quelques pistes. La première pourrait être la peur du danger. Dans toutes les cultures et à toutes les époques, le sang est associé à la blessure et à la mort. Et ce sang qui s'écoulait du corps des femmes, sans que l'on comprenne pourquoi, était sans doute un peu effrayant.
Eh bien, vos mères sont toutes très énervées, sûrement parce qu'elles ont leurs règles en ce moment.
C'est nul, ça !
Monsieur Garrison, Wendy et moi trouvons cette conclusion sexiste.
Eh bien, je suis navrée, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bien, les enfants, commençons par un peu de vocabulaire.
La deuxième est que l'accouchement a longtemps été très risqué et les femmes étaient nombreuses à mourir en accouchant. Le sang des règles qui coulait du même endroit pouvait faire penser que les règles étaient dangereuses. On pense aussi que le sang qui s'écoulait pouvait attirer les bêtes sauvages et mettre la tribu en danger. C'est donc peut-être au départ, pour se protéger, que les femmes étaient mises à l'écart durant leurs règles.
Alors vous prenez les gens, vous les jetez comme des vieux feuilles. On ne traite pas les gens comme ça. On est une tribu. Tu es une tribu. Tu es une tribu. Tu es une tribu. Tu es une tribu. Je suis une tribu.
Enfin, les règles sont un signe du pouvoir qu'ont les femmes de porter et donner naissance aux enfants, aussi bien garçons que filles. Un pouvoir si impressionnant qu'on en a fait un tabou. C'est ainsi que l'on peut parler aujourd'hui d'inégalités menstruelles. Parce qu'elles ont leurs règles, parce que les règles font l'objet d'un tabou, les femmes subissent une forme d'oppression qu'aucun homme ne connaîtra jamais. C'est parce que le sang menstruel est tabou que les femmes souffrent sans remède depuis des millénaires. C'est parce que le sang menstruel est tabou qu'on leur a longtemps interdit de prendre la mer, de chasser, de voter ou d'être élue, de parler en public ou d'assumer des responsabilités politiques ou religieuses. C'est toujours parce que le sang menstruel est tabou qu'on leur vend aujourd'hui des tampons et des serviettes imprégnées de dioxines et de parfums toxiques. C'est pour ça aussi qu'on discrédite leurs paroles en disant « Ben quoi, t'es de mauvais poil, t'aurais pas tes ragnagna ?» sans pour autant apporter de réponse médicale satisfaisante aux troubles associés à la menstruation. Si elles arrivaient aux hommes et non aux femmes, les règles deviendraient un événement masculin enviable et digne de fierté. Les hommes se vanteraient de la durée et du flot. Les garçons marqueraient l'arrivée de leurs règles, ce symbole tant attendu de virilité, avec des célébrations religieuses et des fêtes strictement masculines.
Madame Allerton, ça veut dire quoi avoir ces règles ?
Les enfants, c'est un sujet très délicat à aborder.
Oui, c'est important.
Eh bien, ça commence à la puberté et chaque mois, on saigne, vous savez, là, en bas.
Putain de merde, vieux, Cartman disait vrai.
Bon, les mecs, je suis navré, mais je serai pas avec vous le soir du Nouvel An. Je dois fréquenter des gens plus vieux que vous parce que je suis plus un petit garçon. Moi, j'ai mes règles et pas vous, les mecs, hein. Moi, j'ai mes règles et je saigne du cul.
Il existe beaucoup de superstitions autour des règles. La plus connue d'entre elles concerne la mayonnaise. On dit encore souvent qu'une femme qui a ses règles ne peut pas la réussir. Mais dans le passé, c'était pire. On disait aussi que les femmes qui avaient leurs règles risquaient de faire tourner le vin, pourrir les aliments, ternir les miroirs et donner la rage aux chiens. D'où qu'elles viennent, ces croyances avaient une utilité. Renforcer l'idée que le sang menstruel était dangereux, que les femmes l'étaient elles aussi, et qu'il valait mieux ne pas s'en approcher. Bref, les superstitions ont servi à renforcer le tabou. Pour briser les tabous, on peut et on doit parler des règles librement et sans honte.
Bienvenue à tous pour ce cercle des femmes. J'avais envie de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Tu vas où, Victor ?
Hein ? Bah, j'ai entendu que c'était le cercle des femmes. Moi, je croyais que c'était l'atelier lâcher prise, donc...
Donc tu penses que les règles, ça concerne que les femmes ?
Non, j'ai pas dit ça, mais effectivement, c'est plus un problème de femmes.
Ah, c'est un problème ? Non, alors donc c'est bien que tu restes. Oui.
Le moment est venu pour les femmes comme pour les hommes de réinventer les règles.
C'est pas ce que je veux, voilà, c'est une expression, d'accord.
Je propose qu'on chante.
Ouais. J'aime mes règles, elles me connectent avec la lune. J'aime mes règles quand elles sont brunes, je les assume.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 avec les détricoteuses et vous venez d'entendre la création de Joanne. Merci Joanne. C'était ta première création, il faut le dire.
Ouais, bravo.
Tu as de l'avenir.
Tu
as de l'avenir.
Contente.
Merci les détricoteuses.
Merci à toi.
Est-ce que tu veux directement dire quelque chose par rapport à ça ou on te pose des questions?
Ouais, je peux dire que tout ce qui est dit de ma voix est en fait lu et tiré des livres donc d'Élise Thiébaud, qui est l'auteur de « Ceci est mon sang » et de « Les règles, quelle aventure ». Et voilà, donc c'est vraiment un peu un teasing de ces deux bouquins que je vous invite à lire. Voilà, c'est juste ça. Si vous avez des questions...
Alors moi, j'ai pris plein de notes comme une bonne élève.
C'est bien.
Je ne sais pas par quoi commencer. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, donc c'est sûrement l'auteur de ce livre qui a mis en parallèle ça, la question des tabous. Et c'est vrai que quand même, ce qui structure une société, c'est le tabou de l'inceste, c'est le tabou du meurtre. Enfin, après, il faut voir si on appelle ça tabou, parce que c'est un interdit. Donc, je ne sais pas si... Mm-hmm. Et du coup, qu'elle mette en parallèle que les règles, c'est un tabou aussi, alors que ça ne touche pas du tout à la même chose.
Exactement, ouais. Ouais.
C'est très surprenant. Après, ça touche sûrement à quelque chose de vital, dans le sens où c'est le symbole... Mais finalement, c'est vrai que c'est fou, parce que c'est le symbole de la mort, ouais. A priori, dans les recherches, ouais, qu'elle a fait, ouais. Alors qu'en soi, c'est le symbole de la vie.
Exactement, ouais.
Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, en fait, dans le développement que tu as fait, quoi.
Mais pour rebondir, moi, j'ai un truc incongru à dire par rapport au tabou. J'ai expérimenté pour vous, peut-être vous l'avez déjà fait. L'avantage du tabou sur les règles, c'est que quand vous n'avez pas envie d'aller au travail parce que vous avez vos règles et que vous avez un chef masculin, vous dites que vous avez vos règles, ouais. Et très, très vite, ah oui, pas de souci.
Ah ouais.
Tu peux rester chez toi.
Il n'y a, voilà, pas de discussion. Ouais.
Voilà.
Ouais. Effectivement.
Mais pour dire aussi que, enfin, moi, ça me fait penser à ça. On entend dans ton montage que j'ai trouvé très bien et très dynamique que les règles, en fait, on peut pas faire plein de choses, on peut pas faire de vin, on peut pas faire de mayonnaise, etc. Il y a aussi maintenant une théorie qu'on entend de plus en plus et qui vient des peuples peut-être plus des traditions plus ancestrales, plus anciennes, qui dit que finalement, en fait, quand une femme a ses règles, elle est déjà en train de faire beaucoup de choses. Et est-ce qu'on peut faire autre chose ? Est-ce qu'on peut continuer notre vie normalement ? Enfin, normalement, c'est pas anormal, puisqu'en fait, les règles, c'est normal. Mais est-ce que quand on a nos règles, on n'est pas dans un autre cycle ? Et du coup, est-ce qu'on ne doit pas changer notre rythme, en fait ? Moi, je dois bien avouer que je ne peux pas continuer ma vie de la même manière au début de mon cycle qu'à la fin, quoi. C'est pas pareil.
Bah, c'est des choses en ce moment qui sont beaucoup discutées, même au niveau politique. Enfin, il y a des pays, je ne sais plus si c'est en Norvège ou en Suède, où ils ont aménagé le temps de travail pour les femmes, et où du coup, elles peuvent réduire leur temps de travail au moment des règles. C'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui nous impacte quand même. C'est-à-dire que nous, moi, c'est ce que je discute souvent avec des amis hommes, c'est que nous, en fait, on est sujettes aux variations hormonales tous les mois, en fait. Donc, nous, on sait ce que c'est que la variabilité. On n'est pas dans quelque chose de constant. Et je pense que des fois, c'est ce qui peut faire varier le rapport des hommes et des femmes à la réalité, en fait. C'est que eux, ils ont moins l'expérience de la variabilité des choses, en fait.
Et un autre rapport au temps aussi, ouais, voilà. Je pense. Ouais. Enfin, je pense que c'est beaucoup plus facile pour un garçon, effectivement, de ne pas avoir ce rapport au temps, au calendrier, que nous, très jeunes, dès la puberté, finalement, on nous apprend à prendre un calendrier, à compter les jours, à se dire, OK, il faudra anticiper qu'à telle date, il va se passer ça et qu'il faudra être prête. Et du coup, ça change notre rapport au temps aussi, ouais.
Sans parler après de la contraception type la pilule qui en fait lobotomise un peu ça, puisque tu as plus à compter, en gros c'est toujours pareil, tu as moins ta variabilité hormonale comme tu disais Laure, donc c'est vrai que ça, je pense que ça peut contribuer au tabou aussi, ces contraceptions qui finalement annihilent les cycles naturels.
Ouais, et qui entretiennent la plupart du temps des menstruations parfaitement inutiles. Jusqu'à présent, en tous les cas, on n'a pas prouvé l'utilité d'entretenir ces menstruations, mais il semblait important que les femmes continuent de subir ce cycle malgré la contraception.
Et oui, bah, ça me fait penser que d'un côté, donc oui, c'est ces contraceptions qui gardent fausses règles. Dans la recherche du coup d'une contraception qui correspond mieux à chacune, on reprend aussi possession et on apprend aussi à comment notre corps vit les choses avec ou sans, avec telle ou telle contraception. Enfin voilà, il y a tout un truc où il faut rechercher, enfin se reconnecter à notre cycle et à comment notre corps est quand il n'est pas... déréglé par les hormones, voilà, de la pilule par exemple. Enfin, là, c'est un petit peu mélangé là, ce que je dis, mais du coup, ça fait le lien un petit peu avec le sujet d'Amandine. Je sais pas si on a fini ou pas.
Justement, là, on va passer, je pense, au sujet d'Amandine et puis on pourra reprendre la conversation sur ce sujet-là. Donc, du coup, elle a enregistré son lancement. Amandine, du coup, c'est celle qui est au Chili ou à Paris ?
Oui, au Chili.
Au Chili, d'accord.
Bonjour à toutes. Je vais faire comme si j'étais en direct sur le plateau et pas du tout à l'autre bout du monde. Et je m'appelle Amandine et quand Marianne m'a invitée à proposer un son en rapport avec le thème rouge, j'ai tout de suite pensé à la lutte féministe et au rouge de la révolte. J'habite au Chili depuis 4 ans et ici, durant l'année 2018, on a pu voir un grand soulèvement d'une forte vague féministe. Il y a eu près de 20 universités qui ont été en grève pour réclamer, entre autres, une éducation non sexiste et un avortement libre. Du coup, quand Marianne me fait cette invitation, je suis dans cet état d'esprit de lutte. En décembre dernier a eu lieu la première rencontre nationale des femmes qui luttent pour préparer la grève du 8 mars prochain. Et j'ai tout de suite pensé à rendre compte de ce mouvement. Je l'ai trouvé très intéressant et assez inédit ici, et ça m'a tout de suite intéressée de pouvoir visibiliser ce que faisaient les féministes chiliennes. Mais je me suis vite... est limitée au défi de la traduction. Car sur le coup, j'ai été à la rencontre où il y avait presque 1500 femmes, mais j'ai pris des sons d'ambiance, des sons de groupe qui parlaient, et quand j'ai tout réécouté, ça m'a semblé très compliqué de pouvoir doubler ces sons. Du coup, j'ai décidé de changer de sujet, avec toujours en tête le rouge comme lutte, mais plus comme la lutte depuis la déconstruction. Comment se déconstruire, comment se réapproprier son corps. Récemment, j'ai vu un TED Talk sur la révolution de s'aimer, d'aimer son propre corps, et ça m'a paru tellement vrai et tellement en rapport avec ma rencontre avec Rocío. Car effectivement, j'ai changé de sujet, j'ai décidé d'interviewer Rocío, Rocío qui est chilienne et qui est en train de réaliser un projet matrice sur les règles. Je connais Rocío depuis 4 ans, car on est devenus amis en faisant de la biodance ensemble, et j'ai pu voir pendant ces 4 dernières années comment elle a évolué, comment elle s'est empouvoirée, comment elle a ouvert un chemin d'autoconnaissance et un chemin féministe. Et c'était très intéressant de voir petit à petit cette ouverture d'esprit. Et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses durant ces 4 ans ici. Et donc, je suis partie de la lutte, mais de la lutte depuis la déconstruction, depuis se connaître. Et comment se connaître est un acte de rébellion et un acte pour lutter contre le patriarcat. Donc le son que je vous propose maintenant sont des bribes de pensée de Rocío sur son projet matrice, sur le pouvoir du chant et le pouvoir des règles. C'est assez intime, c'est assez autobiographique. Et c'est pour ça que je l'ai appelé mémoire menstruelle, comme des bribes d'autobiographie, ou comment se raconter et se dévoiler à travers son expérience menstruelle. J'espère que ça vous plaira et je vous envoie du soleil depuis l'été austral.
Le rouge m'évoque en ce moment, en été, une sorte de profondeur menstruelle, une sorte de couleur sang, couleur vie. Je l'associe aussi au pouvoir, à la force, au fait d'être devant de la scène et ancré sur terre.
La potencia del empoderarse, del plantarse la tierra y de como tener mucha fuerza.
Trouver la force et s'empouvoirer. Nous sommes au Chili. J'y habite depuis 4 ans et j'ai pu voir ces dernières années se construire et se soulever une nouvelle vague féministe, jeune, puissante et créative, qui a envie de faire tomber le patriarcat et de faire valoir une éducation non sexiste. Cela passe sans aucun doute par la déconstruction. Déconstruire ses préjugés, ses concepts, sa vision, pour créer un nouveau chemin, ensemble, juntas et plus forte.
Je m'appelle Rocío, j'ai 24 ans et je suis étudiante en graphisme. Je suis aussi musicienne et très proche du monde artistique et de tout ce qui touche au développement personnel. Et actuellement, je travaille sur un projet lié aux règles et au féminisme. Rocío est la créatrice de Matrice, un projet artistique et de recherche lié au cycle menstruel et qui mélange son, musique et vidéo. Rocío est aussi chanteuse, et c'est à travers ce média qu'elle trouve sa voix et la force de communiquer ce qu'elle ressent. Redécouvrir son corps et l'appréhender loin des préjugés et des diktats imposés par le patriarcat. Et si finalement la lutte, la révolution, passer par connaître son corps, le reconnaître et l'aimer? Pendant très longtemps, je n'ai jamais vraiment prêté attention à ce qui se passait dans mon utérus. Mais quand j'ai commencé à m'y intéresser et à me rendre compte que je possédais en moi une source d'information si importante et qui pouvait m'aider à comprendre beaucoup de choses que jusqu'à présent je ne comprenais pas, ça a été un déclic. Et c'est pourquoi j'ai décidé de travailler sur la menstruation. Je savais quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique que j'allais être confrontée à de nombreux obstacles. À ce moment-là, les règles étaient un sujet tabou, déconcertant. De nombreuses personnes allaient me questionner le sujet ou le trouver étrange. Et en fait, tout ça m'a encore plus motivée. Matrice est un projet qui a commencé en 2017, comme un projet de recherche et d'investigation sur la thématique de la menstruation. Puis, durant l'année 2018, le projet a pris forme et s'est tourné vers le monde artistique. Grâce à l'aide de nombreuses personnes qui m'ont accompagnée, Matrice s'est transformée en ce qu'il est aujourd'hui. Une pièce audiovisuelle où l'on voit une femme dansant les phases de son cycle sur la musique que j'ai composée. L'objectif de Matrice est pluriel. En premier, il s'agit de visibiliser le cycle menstruel. Mais aussi à travers la danse de Kunti, la femme qui danse dans la pièce audiovisuelle, il s'agit de montrer un corps non hégémonique et libre de préjugés. Je voulais mettre en avant la désexualisation du corps des femmes, ici le corps de la femme n'est pas là pour satisfaire le désir d'autrui, et souligner leur réappropriation. J'ai conçu Matrice comme un projet d'art intégral. Aujourd'hui, il est composé de cette pièce audiovisuelle, mais si tout va bien et que le projet suit son cours, il se peut que Matrice s'expande et se développe depuis une nouvelle perspective. J'aimerais pourquoi pas organiser une rencontre entre femmes ou un podcast lié aux règles. Qui peut savoir quel chemin va prendre le projet ? Il y a encore 2 mois, le projet était centré sur la femme déesse. le féminin sacré. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé de perspective. Je me suis rendu compte assez peu que les femmes ne sont pas les seules à avoir leurs règles. Les personnes transgenres ont elles aussi leurs règles. Me rendre compte de cette diversité m'a permis de m'éloigner de cette vision essentialiste de la femme, passive, douce, qui materne et qui prend soin des enfants. Cette vision liée à la construction culturelle patriarcale de la société, où l'homme est dans l'espace public et la femme dans l'espace intime. Sur un plan beaucoup plus spirituel, je crois qu'un parent à moi, ou dans une autre vie, ou quelqu'un dans mon arbre généalogique devait être une femme qui avait besoin de parler. Ou peut-être c'est moi qui ai besoin de parler. Pour moi, utiliser ma voix à bon escient, c'est comme une alchimie. Je sens aujourd'hui la nécessité de me réunir avec des femmes. Je sens qu'on a besoin de parler et que le dialogue et le fait de pouvoir parler de nos problèmes sans que personne nous dise que ce que nous racontons n'est pas si important ou qu'il y a des choses plus graves dans la vie est essentiel. Ces rencontres sont tellement nécessaires car elles nous aident à visibiliser ou mettre en mots ce qui nous passe. Par exemple, la violence que nous vivons sans savoir que ce sont des violences. C'est la meilleure manière de se connaître et de s'ouvrir. Je suis une personne très introspective et très réservée. Et si bien je suis très expressive et très sensible, je n'ai pas l'habitude de transposer à la réalité les choses comme je les sens. Je garde toujours pour moi ce que je ressens vraiment. Et actuellement, grâce au processus que je vis avec Matrice, je suis en train d'oser dire les choses telles qu'elles sont, même si ce sont des choses dérangeantes. Peu douce ou très romantique, peu importe, je l'ai dit. Et oser apporte une libération corporelle très importante. La même sensation que je ressens quand je chante. Quand on chante de manière concentrée et que l'intention de ce que nous sommes en train de faire se ressent dans le corps, les émotions s'activent et on peut ressentir une espèce de transe. Et je crois que quand on a ces règles, c'est un moment tant émotionnel et tant intense que c'est plus facile de rentrer dans cette transe et d'être connecté au plus profond de soi-même et de laisser que les choses surgissent et apparaissent, tout simplement.
A cada parte de mi ser, a cada parte de mi andar, pa curar.
On est toujours sur Jet FM 91.2 en direct et nous avons Amandine qui a réalisé le son que nous venons d'entendre, Mémoire menstruelle, et donc on est en communication avec le Chili. Est-ce que tu es là?
Oui, je suis là.
Je vous
entends.
Ça marche. Bon, super. Du coup, la question qu'on aurait eu à te poser, c'était donc de nous décrire un petit peu la pratique de ton ami Rocio et ce que tu as vu son spectacle, son projet, et puis ce que tu as à nous dire peut-être d'autres projets de ce type qui se passent au Chili et qui parlent de ce mouvement autour de la libération du corps.
Du coup, ce que j'ai expliqué, c'est que Rosie, en fait, ce projet Matrice, c'est un projet qu'elle est en train de mettre en place pour sa titulation de master en graphisme. Du coup, elle est en train de réaliser le projet et le projet n'est pas encore terminé, il n'a pas encore été présenté. Je pense qu'il va être présenté aux environs du mois de juillet. Mais si elle est en train de réaliser cette pièce audiovisuelle qui, elle, est prête, et en fait, c'est la libération des corps, c'est à travers une danseuse qui s'appelle Kunti, et qui a un corps, comme je dis, dans le son non hégémonique, c'est pas un mannequin, c'est pas un corps normal, c'est une personne normale, en fait. Et elle danse, en fait, c'est un peu lié à la violence, elle danse sans penser vraiment à ce qu'on va penser d'elle. Et à travers cette danse qui va être visible, à tout le monde, en fait, c'est pour inciter à être comme on est, peu importe les préjugés ou peu importe l'image qu'on peut donner de soi. En fait, c'est vivre pleinement et ce qu'on ressent. Et c'est ça qu'elle est en train de mettre en place, en fait, dans son mémoire, visibiliser ce qu'on ressent vraiment et oser dire ce qu'on ressent face aux règles.
Mmh,
Donc elle part des règles parce que c'est pour elle ce qu'il y a de plus lié au corps et pour après se détacher du regard stéréotypé et normé de la société, en gros.
Oui, en fait, les règles, c'est un prétexte pour se connaître mieux, pour connaître ce qui se passe dans son corps. Et à partir de là, c'est un peu sa déconstruction, comment elle peut rompre les préjugés d'une société patriarcale sur le corps, sur comment on doit s'exprimer et ce qu'on doit dire ou pas face aux règles, et exprimer toute autre chose.
Et juste pour, voilà, pour une autre question, peut-être pour finir, parce que le son n'est pas très très bon. Toi, tu as dit que tu avais appris beaucoup de choses ces 4 dernières années. Et pour comparer la France et le Chili, est-ce que tu trouves qu'il y a un regard différent autour de ces questions, même si l'avortement est illégal, qu'il y a beaucoup de barrières pour être égal entre hommes et femmes? Mais est-ce que tu as remarqué la force de ce mouvement différent dans France?
Oui, il y a une différence entre les mouvements féministes assez forte. Au Chili, ça fait nouveau, en fait. Ça s'est développé durant les 4 dernières années. Il y a eu beaucoup de cas de violences sexuelles, de féminicides. Et donc, du coup, avec le Ninguna Menor qui a commencé il y a 2 ans, en fait, en Argentine, et qui s'est expandé, et à toute l'Amérique latine, en fait, il y a eu vraiment un mouvement qui s'est généré. Et ici, en fait, le féminisme, c'est aussi très centré sur l'anticolonialisme. Donc ça, c'est assez intéressant. Et moi-même, j'ai pu me déconstruire par rapport à toutes ces questions des femmes non hégémoniques colonialisées. Et c'est très intéressant. Et c'est des questions qu'on n'aborde pas du tout dans le féminisme en France. Mmh. Et ça, c'est une grosse différence.
Ok, merci beaucoup, Amandine. On va continuer la réflexion entre nous.
Couper le...
Merci.
Bon, écoutez, merci.
Merci à toi.
Merci d'avoir participé de si loin. Merci d'avoir détricoté. Des tricotards, comment tu dis les détricoteuses en espagnol?
Comment
tu dis les détricoteuses en espagnol?
Tricoter, on dit tejer. Entonces, de tejer.
Ok, merci beaucoup, Amandine.
Ciao.
À bientôt, ciao.
Donc on n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour rebondir sur ces deux sujets autour des règles qui demanderaient vraiment d'aller beaucoup plus loin. Moi je voulais juste dire ce qui m'a frappé, c'était autour de l'intériorisation des règles et du coup notre corps. Comment en fait depuis toute petite on nous dit que c'est sale les règles et qu'on le prend comme ça et on n'ose pas en parler dans la société, on n'ose pas dire qu'on a des règles, on ose à peine dire est-ce que t'as une serviette ou un tampon s'il te plaît. Enfin voilà. Et je le dis souvent, mais depuis que j'utilise une cup menstruelle, eh bien, on peut voir son sang quand on l'enlève en fait et quand on est dans la douche et que je trouve ça très beau en fait à regarder et à voir couler par rapport à ce qu'on peut avoir sur une serviette ou un tampon. Enfin, la serviette c'est encore pire, je pense. Et que du coup, c'est une façon je trouve, de se réapproprier son corps et en plus au-delà du fait que ce soit écologique, économique et très pratique.
Et ce sang, en plus, on peut en faire une offrande à la nature puisque c'est très riche et on peut mettre ça dans nos plantes et c'est très très bon pour les plantes.
Et pour justement se réapproprier ça, je vous propose une musique tout à fait en lien. C'est un groupe qui s'appelle Skidbox qui a fait un morceau qui s'appelle I Got The Flow. Je vous conseille d'aller voir le clip parce que là, il n'y a pas le début et la fin du clip. Mais en tout cas, c'est un groupe de meufs qui remettent à l'honneur les règles. I got that flow. I can't go on that first date, 'cause I am tripping off you late.
Just go out and get your tampon.
I'll make sure I pack a tampon. I'm leaking placenta, so I hit that shopping center, and I use my credit card. I use my credit card, and I try on a wicked dress, but I'm bloated and super stressed, and now that dress won't fit, but I don't give a shit.
'Cause I got that flow. I got that flow. And I think that you should know, I got that flow.
Someone give me something tasty, like a chocolate or a pastry.
I need to eat some high carb shit, 'cause my emotions hurt a bit.
Somebody give me a burrito, I could do with some Doritos. And I eat the whole bag, when I am heavy on the rack. Oh, I'm sorry to offend,
But I'm gonna start my rant again. Can't handle the natural blood I leak, but you watch violent UFC? Why should you be unimpressed at my psycho PMS? I just shout my battle cry and bleed for 3 days and do not die.
I got that flow. I got that flow. I just wanna let you know I got that flow.
It's the red demon flowing on my panty liner. It's been growing in strength inside my vagina. It was forged in the depths of my uterine cavity. Now it's crawled from the darkness, thanks to gravity. It's the time of the month and the painters are in. I ain't got no baby, so keep living in sin. Cause if your egg's not fertilized by the sperm, then it's back for another 3 to 5 day term. All you sensitive lads, it's not that bad. It's the magic of life, mushed into a pad. It's one part blood, 2 parts tissues, 3 parts crud, and 20 parts issues. If you think me talking about my flow is wrong, well, that's the whole reason why we wrote this song. It's here and it's gonna make our vagina look like that corridor from The Shining.
I got that flow. I got that flow. I got that menstrual flow.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 chez les Détricoteuses. On vient d'écouter le groupe, je ne sais plus comment il s'appelle, Skidbox, voilà. On vous reconseille d'aller voir le clip au cas où vous auriez oublié le conseil de Julie. Et maintenant, je laisse la parole à Lucie qui va nous présenter son sujet.
Et oui, moi je poursuis avec du rouge qui coule, mais cette fois c'est un rouge à boire. Puisque en fait, quand moi j'ai vu cet appel à participation chez vous, les Détricoteuses, j'étais déjà ravie, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Et en plus, j'ai tout de suite pensé à des sons que j'avais déjà. Moi, je ne sais pas si j'ai triché, mais en tout cas, j'avais déjà des rushs. Ce que je vais vous proposer...
J'avoue que j'ai un petit peu aiguillé la thématique pour toi.
Tu savais que j'allais proposer quelque chose sur le vin. En fait, je vais vous proposer quelque chose qui va déconstruire ce que tu as dit, Julie, en intro tout à l'heure. Le vin n'est pas le monopole des hommes, puisque ce que vous allez entendre, c'est une vigneronne qui parle de sa cuvée, une cuvée qui s'appelle le réchauffement du climax. Donc, pour les connaisseurs de vin, il s'agit de Madiran, c'est un cépage 100% tannate, un cépage très intense, plein de soleil, très tannique, comme son nom l'indique. Et pourquoi j'ai tout de suite pensé à ces rushs-là ? Parce que, donc je vous le dis, c'est un vin intense, mais aussi parce que cette vigneronne, elle est passionnée par son métier et aussi par l'essence qu'elle met en marche, et spécifiquement quand elle fait cette cuvée, le réchauffement du climax. J'ai pas envie de vous en dire plus pour l'instant et je rajouterai quelques mots après cette écoute.
L'étiquette, en fait, c'est le corps d'une femme, juste une esquisse, en fait, et avec ses courbes, et du coup, sa poitrine qui rappelle aussi une lune. Voilà. Donc, on est vraiment dans la Vénus, c'est la femme. Voilà. Et ça, j'aime ça. Oui, je le dis, j'aime ça.
Rouge vigneronne, un extrait de vie sonore.
Ouais, j'étais pas là, du coup.
Une arme de...
Ah oui,
de
production
massive. Ah oui, non, mais le patron, lui...
La musique. Retour de salon.
Tu pètes un plomb ? T'as juste envie de faire quoi là ? De boire une bière ! Une bière ! Ouais, un truc fait avec du malt ! Ouais. Avec du malt, c'est une ambre du raisin. Ouais. Un truc où tu as juste envie de le boire et pas de le déguster. Un truc où tu es une personne normale et qui a envie juste de boire et passer une bonne soirée. Voilà, en fait. Parce que c'est ça aussi. Tu vois, quand tu fais du vin, bah, tu es tout le temps. C'est dans des moments où les gens ils décompressent, mais toi tu dois bosser en fait. Voilà. Et après, du coup, tu te retrouves à rentrer à écouter Corona parce que tu pètes un plomb. Non, ça c'est pareil parce qu'on n'est quand même pas obligé d'écouter Corona.
On va faire une petite pause.
Ouais. Ah là là. Non, mais pour dire oui, c'est vrai, pour le vin, sérieusement. Tu sens qu'il y a une espèce... Mais ça, on a déjà parlé de l'espèce d'aura du vigneron. Et la vigneronne, quand t'as pas... Parce que des fois, t'as le truc aussi... Ah, c'est vous, la commerciale ! Et votre mari, il travaille dans la vigne !
Ben non, j'ai pas de mari. Voilà, ça me fait rigoler aussi. Et non, après oui, je trouve que il y a un truc qui fait qu'il y a, oui, c'est ce que je dis, là, une espèce d'aura de pouvoir, de faire le vin. Et puis il y a ce côté un peu intime, la légère euphorie de l'alcool, la sensualité du vin, plutôt du vin rouge quand même. Et je trouve que le vin, oui, il y a un côté érotique, dans une dimension érotique dans le vin. Voilà. Et moi, et avec le, voilà, pour moi, c'est en rapport avec le fruit, avec le feu, avec la chaleur. Et moi, j'ai pas de tabou avec ça. Donc du coup, je l'assume. Alors c'est clair qu'après, quand tu racontes l'anecdote du réchauffement du climax, des fois, t'as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les braguettes aussi. C'est énorme. Je te jure, tu sens que je fais ouf, ouf. Moi, vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'avec le réchauffement du climax, oui, du coup, c'est mon corps qui est en contact avec mes raisins. Et il y a cette chaleur, ce côté, du coup, aérien aussi, de fait de sentir les bulles et le jus qui te remonte le long des jambes. Je suis désolée, c'est, pour moi, c'est hyper sensuel, quoi. Enfin, voilà, il y a un côté très... chaleureux, quoi, et intime. Et tu auras l'occasion de faire le pigeage.
Bah, je verrai si j'ai un orgasme.
Non, mais c'est pas un orgasme.
Bah, maintenant, moi, tu m'as vendu.
Tu vois, c'est la lumière sacrée. Hein. C'est ta lumière sacrée, ouais, que tu dois trouver.
Voilà, ça marche chez les hommes aussi.
Bah, peut-être, mais je pense. Enfin, après, en fait, la question, c'est surtout de se dire, en réalité, tout simplement, c'est de se dire de prendre son pied avec ce qu'on fait, quoi. Can you feel it?
Can you feel it?
Can you hear it?
I can hear it.
Yeah. It's a new dance.
It's a new dance.
Red wine.
Red wine.
Red wine. Climax en français, c'est un mot qui est en rapport avec l'écologie et qui signifie l'équilibre absolu. Il y a aussi ce clin d'œil là, et c'est aussi un coup de pied au cul pour le réchauffement du climat. Donc il n'y a pas que le côté sexuel et tout ça, il y a autre chose, quoi. Je trouve que ce nom, oui, ben voilà, il y va parfaitement pour cette cuvée, quoi. Et ce que j'adore aussi, là, c'est, bon, c'est sur ce millésime, j'espère qu'on réussira à le trouver sur les autres, mais il y a ce côté fin et très haut qu'on trouve aussi dans les tanins, quoi. Alors que c'est quand même un truc super puissant, quand même, le tanate. C'est un truc qui est censé être super... tu vois, ça aurait pu être un truc de camionneuse aussi, tu vois. Il y a un côté très... chaleureux, quoi, et intime. Et intime aussi parce que déjà c'est une toute petite cuvée, c'est voilà, c'est il y a qu'un seul foudre qui est vinifié comme ça. On est sur le truc le plus fin, donc c'est pas juste un orgasme complètement mécanique, quoi. Tu vois, ouais, je suis en sens interdit, mais comme souvent. This is the rhythm of the night.
Ça danse dans les studios. C'était chaud. Le sujet de Lucie dans les détricoteuses, toujours autour de la thématique rouge.
Et oui, et moi je voudrais ajouter deux choses. La première sur cette vigneronne, donc c'est une personne que j'aime beaucoup, qui est devenue une amie, hein, qui s'appelle Céline Houlier, qui fait donc du vin de Madiran dans le sud-ouest. C'est dans le Béarn, aux confins du Béarn, du Gers et des Hautes-Pyrénées. Donc il y a du soleil, il y a de la bonne humeur. Hein. Vous avez vu que on a, voilà, j'ai choisi une ambiance décontractée pour ce son, puisque le retour de salon était évidemment pas totalement en toute sobriété. était, mais c'était un beau moment de confession. voilà, et puis c'était aussi, donc c'est une vigneronne chez qui j'ai passé moi un mois et demi en immersion, et donc je me baladais avec mon micro, donc forcément c'était déjà une relation qui existait, et on a eu l'occasion de beaucoup échanger toutes les deux. Ça c'était pour le fond, et puis pour la forme, en fait, je dis que c'est un instant de vie sonore au début, parce que c'est vraiment ça, en fait, pour moi, c'est une sorte de tableau de bord, de carnet de voyage sonore, ce que j'ai enregistré, ce que je vous propose là. Et donc, on est plus dans le documentaire. J'ai aucun son qui n'a pas été pris dans l'entourage de cette vigneronne. C'était vraiment un choix. Et c'est aussi pour ça que le son, bon, il est un peu parfois inégal, mais c'est vraiment voilà, un micro embarqué avec que les glouglous du chai de Céline, de son vin en fermentation, les pigeages aussi, quand on entend, quand on parle.
C'est quoi les pigeages ?
Alors, le pigeage, c'est... elle parle un moment de faut prendre son pied, en ouais, fait. Hein, oui. La lumière sacrée, homme ou femme, on peut la trouver quand on prend son pied. Ben en fait, c'est fouler au pied, écraser au pied les raisins. Donc, c'est un peu la méthode ancestrale. Et moi, je l'ai vu faire hein, quand on nous entend crier, chanter. Là, elle est immergée jusqu'à la taille.
Toi, tu ne l'as pas fait ?
Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissée dans ce moment précieux. Elle met beaucoup de sacré dans son travail et c'est très beau. On sent hein, qu'elle est passionnée. Enfin, je ne sais pas ce que vous direz, ce que vous avez ressenti. Mais en tout cas, je l'ai laissée, j'ai préféré être à l'extérieur pour enregistrer. Et en effet, elle est immergée jusqu'à la taille. Et puis, elle écrase avec le poids de son corps ses raisins, donc le fruit d'un travail d'une année, de beaucoup d'intention, de soins. Voilà, elle travaille en biodynamie, en bio et en biodynamie, donc avec tous les éléments de la mère nature et les animaux qu'elle a mis autour de ses vignes.
C'est quoi les animaux qu'elle a mis autour de ses vignes ?
Alors, il y a des brebis et un mouton, il y a des ânes, il y avait des chiens, un moment. Il y a des ruches aussi, qui sont tenues par un apiculteur du coin. Voilà, ça fait partie d'un écosystème global.
Et pour elle, alors, c'est dur d'être une femme en tant que vigneronne ?
Mais en fait, alors, je ne peux pas trop parler à sa place, mais moi, ce qui m'a surtout interpellée, enfin, pourquoi je vous propose un extrait où elle parle, c'est parce que justement, elle fait du vin comme une femme. Elle ne fait pas du vin comme un homme en étant une femme. Et je trouve que c'est ça qu'elle explique un peu. Elle explique vraiment le processus de création, donc à la portée de tous et de toutes. Mais c'est vraiment du vin à sa façon. Quand elle dit que ce n'est pas un vin de camionneuse, ça veut dire un peu que malgré... C'est un des vins les plus puissants au monde, en fait, le Tanat, le Madiran. Et du coup, bah, malgré ce cépage si puissant, ce soleil très intense du sud-ouest, elle a fait un vin qu'elle considère pas de camionneuse, donc pas dur, pas, en tout cas qui correspond bien à son profil, à son énergie féminine. Et moi, d'avoir pratiqué le travail avec elle dans son chai, j'ai vu que tout était accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que des fois, quand on travaille avec des hommes, il y a des trucs lourds, il y a des trucs sales. Bon, je fais des grosses généralités, mais voilà. Et quand j'ai travaillé avec elle, non, tout est sur roulette, on peut, ou sur cale, on peut, tout le monde peut venir travailler. C'est accessible à tous, quoi. Et moi, ça m'a beaucoup plu.
Ce que j'ai adoré dans son sujet, c'est qu'elle parle de l'érotique du vin. Alors ça, j'ai adoré. Et je trouve que justement, c'est génial de voir une femme qui s'attaque à un vin qui est péchu. Parce que souvent, dans les restaurants, par exemple, quand on commande un vin avec du tanin, même encore maintenant, on va d'abord nous proposer, nous, en tant que femmes, des vins fleuris. Et moi, je sais que j'adore les vins péchus. Ouais, voilà. Et que du coup, voilà, ça n'a aucun sens, en fait.
Et qu'on fera aussi jamais goûter à une femme le vin quand on met une bouteille sur la table.
Ouais. Ça dépend des restos maintenant. Mais ouais. En fait, en général, on propose à l'homme. C'est vrai, ça, c'est un peu ridicule. Du coup, je vous propose maintenant d'écouter l'introduction du sujet de Anna et je mettrai son sujet à la suite.
Le rouge, c'est la couleur par excellence. Et c'est en tout cas ce qu'avance l'historien Michel Pastoureau. J'ai donc voulu revenir aux premières utilisations qu'en ont fait les hommes en Occident, qui se sont en particulier traduites par l'exploitation d'une racine de plante, celle de la garance, transmutée en pigments, puis aussi en colorant pour tissus. L'objectif a été d'en savoir plus sur la technique de la transformation de cette racine en un matériau de teinture. Mais garance, c'est aussi un prénom, celui de l'héroïne du film Les Enfants du Paradis, gouailleuse et surtout libre. Donc j'ai ainsi cherché à apporter un regard sonore sur le rouge, au-delà de la symbolique pour les détricoteuses. À noter quand même que cette couleur, le rouge, semble bien être celle à l'origine du monde de la couleur. Donc j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Un prénom, une fleur, une racine, une voyageuse. Aux origines du rouge, il y a l'humanité, le sang, le feu. Aux origines d'un rouge, il y a la garance. Revenons le temps d'un instant aux racines du rouge, aux racines des premiers actes de teinture en Occident. Antique, orientale, napoléonienne, on dit qu'elle vient d'Inde, peut-être d'Égypte ou d'Orient. En latin, on l'appelle Rubia tinctoria, cette grande herbe vivace, est décrite dans l'encyclopédie de botanique ainsi. Une plante tinctoriale traditionnelle d'environ 1 mètre de hauteur et armée de menus crochets sur l'envers et le pourtour de ses feuilles lancéolées de 8 cm de longueur. Ses petites fleurs en étoiles jaunes pures paraissent en été. La racine récoltée sur les pieds de 2 ans fournit un colorant rouge. Cette étonnante herbacée cache son incroyable pouvoir colorant dans ses racines. Michel Pastoureau, écrivain du Rouge, l'histoire d'une couleur, en parle ainsi dans l'émission Hors champ de Laure Adler sur France Culture.
En Occident en tout cas, la première couleur un peu maîtrisée, c'est-à-dire fabrication et surtout fixage de la couleur, c'est le rouge grâce à ce produit merveilleux qu'est la garance qui permet de teindre en rouge. On l'a fait 5, 6, 7 000 ans avant notre ère, en différents endroits du vieux continent. Ça donne des beaux tons de rouge, en général des rouges assez mats, c'est le problème de la garance, mais solides, riches, même profonds.
Utilisé depuis l'Antiquité, comme le rapporte Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, puis par Napoléon pour les pantalons de son infanterie, quelle est la recette du rouge garance ? Lise Camoin, teinturière de l'association Couleur Garance située dans le Vaucluse, raconte.
La garance qui a été cultivée, c'est la garance des teinturiers, donc Rubia tinctorum, qui elle est une plante qui disparaît l'hiver. C'est une persistante, mais elle disparaît l'hiver et elle refait ses feuilles donc au printemps pour suivre après un cycle végétatif jusqu'au gelé, quoi. Elle continue donc de se développer au niveau de ses racines et c'est sur les racines donc que l'on trouve effectivement les colorants.
Je m'appelle Frédéric. Vous me direz le vôtre?
On m'appelle Garance.
Garance, oh, c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
D'une fleur rouge, comme vous l'êtes. Alors?
Alors, au revoir, Frédéric.
Pour la teinture des textiles, chose que l'homme a fait en fait relativement tôt, il n'avait que le végétal pour fixer la couleur sur le vêtement. Parce que le végétal contient des colorants qui sont solubles dans l'eau. Et pour teindre un tissu, il faut qu'il puisse être immergé. Soit on reste sur les colorants, c'est-à-dire qu'on va mettre les racines dans l'eau. Elles vont libérer le colorant. Un colorant, c'est soluble, donc c'est comme ça qu'il va colorer la fibre. À partir de là, vous pouvez aussi, en utilisant un sel métallique et une base forte, faire précipiter le colorant en pigment. C'est-à-dire qu'il va se désolidariser de l'eau, se transformer en pigment, se déposer par exemple au fond de la cuve de teinture. Ensuite, il va falloir le filtrer et le sécher et le broyer. Et là, vous avez donc un pigment qui ne peut plus servir à la teinture parce qu'il n'est plus soluble dans l'eau, mais qui est utilisé donc pour fabriquer des peintures. Le rouge est une couleur plus rare, donc c'est pour ça que la garance est une des plantes emblématiques de la teinture végétale. Et d'autant plus qu'elle a des critères de solidité à la lumière, à l'usure et au lavage assez intéressants.
Il venait, je le sais, d'ici là-bas, de n'importe où, de nulle part. Et d'ailleurs, on s'en fout, nous, on l'avait appelé l'homme en habit rouge, de cristal puis de feu.
C'était aux racines du rouge, la garance.
C'est toujours les détricoteuses sur Jet FM et c'était le sujet d'Anna qui est à Paris et qui donc, enfin qu'on ne peut pas avoir au téléphone parce qu'elle travaille au moment où nous enregistrons. Et c'est dommage, ça aurait pu être pas mal qu'on discute du sujet avec elle. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est en tout cas retenir ce nom. Moi, je ne connaissais pas ce spécialiste des couleurs, mais Marianne, tu connais, qui s'appelle donc
Monsieur Pastoureau.
Monsieur
Michel
Pastoureau. Monsieur Pastoureau. Et on vous recommande évidemment vivement aussi, les voyeuses, d'aller regarder Les Enfants du Paradis si vous ne l'avez jamais vu.
De Marcel Carnet.
Tout à fait, avec Arletty, que vous avez pu reconnaître dans l'extrait. Tu voulais dire un... quand même un petit mot.
Je voulais revenir sur le sujet de Amandine, sur Rossillo. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment beau ce qu'elle disait sur le fait que son projet, c'était permettre de connaître son corps, de le reconnaître et de l'aimer. Et que finalement, ça permettait d'oser dire sans se poser la question du regard de l'autre. Et voilà, juste d'oser et d'user de sa voix.
C'est ce qu'on fait dans les voyeuses, dans les détricoteuses, pardon.
Oui, peut-être les voyeuses aussi, et d'ailleurs. Aussi.
C'est ce qu'on fait dans les détricoteuses, ça, voilà, en fait, cette démarche.
Exactement. Exactement, Julie. Et c'est pour ça qu'on fait des émissions spéciales, pour donner la parole aux autres femmes ou hommes d'ailleurs qui voudraient participer et détricoter des sujets. Donc nous aurons une prochaine émission spéciale au mois de mars. Le thème, ce sera cicatrices. Et vous avez encore une semaine pour vous proposer, parce qu'il nous reste une place, donc contactez-nous par notre page Facebook en message privé. Autre truc à l'agenda ?
Eh bien, nous, notre prochaine émission, on revient en février, bientôt, là, dans un mois, avec la thématique peste.
Et d'ici là, on vous donne rendez-vous à Longueur d'onde pour écouter tout plein de superbes créations sonores.
Alors, Longueur d'onde, juste pour préciser, c'est le festival de l'écoute et de la radiophonie de Brest qui aura lieu du 30 au 3 février, si je ne me trompe pas.
Ouais, 30 janvier, 3 février. Ouais.
Voilà, on y sera. Et quand même, il faut dire que... Laure, tu as été sélectionnée dans la sélection Petites Ondes... Grandes Ondes ?
Non, Petites Ondes.
Petites, pardon. Oh là là, je m'emballe. Petites Ondes avec ta série Sisters,
oui.
Que j'invite tous les auditeurs à écouter sur Jet FM en podcast. On peut la retrouver si on tape Sisters Jet FM.
Sisters Jet FM, vous avez le lien et c'est 5 épisodes entre 15 et 20 minutes.
On vous laisse découvrir de quoi ça parle. Et puis, il y a Marjolaine qui a été aussi sélectionnée dans une autre catégorie.
En fait, dans la catégorie Petites Ondes, mais pas pour le prix, juste en écoute.
Voilà.
Avec son sujet Aphrodite, qui était le premier sujet des tricoteuses qu'elle a réalisé.
Exactement.
Et on tient aussi à faire un clin d'œil à Luc.
Sélectionné à Brest, à Longueur d'onde, dans la section SACD, pour le prix de l'humour. Luc, qui fait la Minute Emploi sur Jet FM, que je vous invite à écouter, c'est super drôle. Et qui va également nous faire des visuels, puisqu'il est quand même multifonction, pour les détricoteuses.
C'est notre moulinex à nous.
Voilà, vous pourrez bientôt voir tout ça sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller sur la page des détricoteuses et de liker très fort. Et voilà, donc il y aura tout ce monde là-bas à Brest et on ramènera peut-être nous aussi plein d'idées pour les détricoteuses. C'est la fin, je pense.
Oui.
On se quitte en musique ?
On se quitte en musique.
Merci les filles en tout cas d'être venues.
Bah, merci les détricoteuses de nous avoir invitées.
Pour vos beaux sujets.
Et qu'est-ce qu'on va écouter d'ailleurs ?
Ben, ça c'est surprise, hein. C'est le son des années 90, hein, c'est ça déjà, voilà, Corona, The Rhythm of the Life Night.
Ah, vous verrez,
Ok, bye bye.
Salut.